Les mesures administratives assouplies, le couvre-feu entre désormais en vigueur de minuit à 5h du matin. Le Haut Commissariat annonce également un assouplissement des mesures de vente d'alcool. On voit tout ça en début de journal. L'incendie de la plaine du champ de bataille à Ploum au Mont-d'Or est désormais maîtrisé. 40 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter d'éteindre les derniers points chauds. L'actualité festive de ce dimanche avec le dernier vide-grenier de l'année sur la place des Cocotiers, mais aussi la culture geek à l'honneur avec une convention Donjons et Dragons du Sci-Fi Club à la Maison de la Parole de Nouméa. En Espagne, 10 000 soldats et policiers supplémentaires pour venir en aide aux sinistrés et rechercher les disparus. Annonce du gouvernement espagnol et ce, 4 jours après les inondations tragiques qui ont ravagé la région de Valence. Le sport, en tennis, Hugo Humbert s'est qualifié pour la finale des Masters 1000 de Paris-Bercy. Et en Calédonie de la voile, avec un nouveau trophée organisé par le CNC, la coupe Exo 7 pour sillonner le lagon sur des parcours côtiers. Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal Info Weekend pour tout connaître de l'actualité en Calédonie, dans la région Pacifique et dans le monde. À la une de l'actualité, un nouvel assouplissement des mesures en vigueur annoncé par le Haut Commissariat. Les heures du couvre-feu changent, tout comme les restrictions de vente d'alcool dans les vinothèques, Michael Juneski.
Le Haut Commissariat annonce en effet ce nouvel assouplissement des mesures administratives aujourd'hui. Une décision prise, je cite, dans le cadre de l'amélioration progressive des conditions de sécurité observées depuis plusieurs semaines sur l'ensemble du territoire, selon le Haut Commissariat. Désormais, donc, le couvre-feu s'applique de minuit à 5h du matin jusqu'au 18 novembre inclus. Il était jusqu'à présent fixé de 22h à 5h du matin. Autre assouplissement, les jours et les heures d'ouverture des lieux pour acheter de l'alcool à emporter du lundi au jeudi de 8h à 18h et désormais le vendredi et le samedi matin de 8h à midi. Jusqu'à présent, la vente d'alcool à emporter était interdite du vendredi midi jusqu'au lundi. Pas de changement concernant les quantités d'alcool autorisées à l'achat. On le rappelle, vous en avez l'habitude désormais, seulement 4 litres d'alcool par jour et par personne pour les alcools allant jusqu'à 8 degrés, 2 litres d'alcool par jour et par personne pour les alcools allant de 9 à 22 degrés, 1 litre d'alcool au-dessus de 22 degrés toujours par jour et par personne. Et puis comme c'est le cas depuis bientôt 6 mois, le port, le transport et l'utilisation d'armes à feu et de munitions restent interdits jusqu'à nouvel ordre, de même que les rassemblements, défilés et cortèges, à l'exception des marchés habituels et des manifestations sportives dans le Grand Nouméa. Le transport de carburant et de produits combustibles reste également interdit.
Des mesures qui concernent notamment les restaurateurs directement impactés depuis la mise en place de ces mesures.
Oui, certaines professions ont déjà dû s'adapter à chacune des évolutions du couvre-feu en vigueur depuis le mois de mai et l'épisode le plus violent des émeutes et des exactions qui avait plongé la Calédonie dans le chaos. Désormais, cet élargissement des heures où la libre circulation reste possible en soirée, laisse entrevoir un quasi-retour à la normale pour les restaurateurs. Mais ce n'est pas le cas des établissements de nuit. Nous avons fait le point avec Jean-Pierre Cuenet, le président du syndicat des restaurateurs, bars et discothèques.
Pour nous, les restaurateurs, ça va nous permettre de rentrer dans la normalité. 22 heures, ça nous permettait de travailler relativement normalement parce que, disons que quand même, les Calédoniens, du coup, ont changé un peu leurs habitudes de sortie. Ils arrivent un peu plus tôt. Mais il est vrai que 22 heures, c'était juste quand même. Avant de finir le repas, de rentrer chez eux. C'est sûr que là, on peut considérer que pour les restaurants, on revient dans la normalité. Les seuls qui seront quand même touchés dans notre secteur par ces horaires, ce sont quand même les boîtes de nuit, les bars et les boîtes de nuit. Discothèques, elles ont plus souvent, normalement, elles ferment plutôt vers 4h du matin. Il est vrai qu'on peut constater pour eux que même les gens qui vont en discothèque ont changé un peu leurs habitudes. Ils vont plus tôt, déjà 22h, ils arrivaient beaucoup plus tôt pour faire la fête. Mais il est vrai que 22h, c'était tôt. Ça s'appelle quand même des boîtes de nuit. Mais vu les circonstances, voilà. Là, pour nous, en tant que restaurateurs, je dois admettre que minuit, pour les restaurateurs, ça nous convient, on revient à la normalité, disons.
Je rappelle que les personnels des restaurants et des métiers concernés par une obligation d'être à l'extérieur après le couvre-feu peuvent toujours obtenir une attestation professionnelle pour pouvoir se déplacer au-delà de minuit.
Dans le reste de l'actualité sur le territoire, feu de forêt maîtrisé au lieu dit du champ de bataille à Ploumes. Le plan Orsec feu de forêt de niveau 2 reste actif jusqu'à l'extinction complète des derniers points chauds. Charlotte Coulson.
Un incendie de taille en évolution depuis vendredi soir. La journée d'hier avait été marquée par un fort vent qui avait accéléré la propagation du feu. En quelques heures, nous étions passés de 3 hectares de végétation brûlée à 70 hectares. Le plan Orsec feu de forêt avait donc été déclenché à 13 heures. À la suite des efforts incessants des pompiers, l'incendie a pu être maîtrisé ce matin. On écoute les précisions du capitaine Rossignol de la Sécurité civile.
L'évolution est plutôt favorable, le feu est maîtrisé à l'heure où je vous parle. Il n'y a plus sur zone, donc ça a bénéficié à la lutte contre le sinistre. Donc ce matin, à 5h du matin, on a 16 engins et 40 pompiers qui ont été engagés, appuyés de drones, pour aller noyer les points chauds résiduels. On devrait pouvoir peut-être passer feu éteint dans l'après-midi. Et il persiste encore des points chauds et des zones qui pourraient provoquer des reprises. Donc ils sont en train de procéder au noyage de tous les petits points chauds qui persistent soit en lisière du brûlé ou soit à l'intérieur, appuyés par les drones et la caméra thermique.
Un bilan provisoire fait donc état de 70 hectares de végétation partis en fumée, malgré l'importante mobilisation sur le terrain. Ce sont en effet près de 40 soldats du feu qui sont intervenus, des pompiers du Mont d'Or, mais aussi de la sécurité civile, appuyés par les renforts nationaux. La zone de plantation de pinus située non loin du champ de bataille a malheureusement été impactée.
Et en bref, une autre intervention des pompiers a été signalée hier à Nouméa, vers 19h, dans l'enceinte du centre pénitentiaire de Nouville. Un début d'incendie a rapidement été maîtrisé dans le camp Est. Une faible surface de végétation a brûlé après l'intervention de 10 soldats du feu et de 2 camions. Le parquet a indiqué qu'une enquête était ouverte pour un feu d'origine criminelle. Il serait parti d'un amas de déchets verts à proximité des logements du personnel du centre de détention. Rendre hommage aux morts pour la France. À l'occasion, hier, le 2 novembre, de la fête des défunts, une cérémonie militaire de dépôt de gerbes s'est déroulée au cimetière du 4e kilomètre. Sur place, Théophile Delassus, directeur de cabinet du haut-commissaire, a tenu à rappeler l'importance de cette cérémonie.
Il était aussi important qu'à travers l'ensemble de celles et ceux qui étaient présents aujourd'hui, on se souvienne de tous ceux qui sont morts pour la patrie, qui ont fait don de leur vie pour la sécurité de la nation, pour la défense de nos valeurs. Et c'était donc une très belle cérémonie, très émouvante, ici au cimetière du 4e kilomètre. Donc il y avait effectivement un certain nombre d'anciens combattants qui sont venus en mémoire de leurs frères d'armes tombés au champ d'honneur, avec les élus, avec le monde militaire, avec la gendarmerie nationale. Nous étions tous ici pour être avec eux et se souvenir de celles et ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la défense de la nation.
Était également présent pour cette cérémonie le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, ainsi que des représentants de la province sud, des forces armées en Nouvelle-Calédonie, de la gendarmerie et le président de l'amicale doyenne des combattants de la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle par ailleurs que depuis 2 jours, les Calédoniens étaient nombreux à se rendre au cimetière pour nettoyer les tombes de leurs proches et les caveaux familiaux pour la Toussaint et la fête des morts.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Événement phare de cette journée et avis aux brocanteurs. Le dernier vide-grenier du centre-ville est terminé. Comme chaque premier dimanche du mois, de nombreux stands étaient réunis sur la place des Cocotiers depuis 7h ce matin et jusqu'à midi. L'occasion pour les visiteurs de faire de bonnes affaires. Pourquoi pas préparer les cadeaux de Noël avec un peu d'avance. Et du côté des exposants, c'était surtout l'occasion de faire du tri et vider les placards.
Ah oui, beaucoup. C'est bien parti depuis ce matin. Justement, on profite pour vider les placards.
C'est pour ça qu'on est venu justement, pour se débarrasser de plein de trucs pour la fin de l'année. Surtout à la place des Cocotiers, c'est un bon endroit. C'est bien pour vendre plein de choses.
Vider les placards et passer un moment en convivial avec tout le monde. Proposer des vêtements, des chaussures, des sacs. Entre 200 et 500 francs, on essaie d'avoir des prix corrects. On sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour tout le monde. C'est pas forcément de rentabiliser, mais c'est de plus de partager.
J'ai beaucoup de choses à vendre qui me servent plus. J'ai beaucoup de vêtements qui me vont plus aussi. Donc c'est l'occasion. Dernière chance avant Noël.
Rendez-vous donc l'année prochaine pour le prochain vide-grenier du centre-ville et toujours à la place des Cocotiers. Et forte affluence pour le marché du Petit Chaud spécial Marais. Depuis hier, plusieurs dizaines de producteurs de Marais se sont donné rendez-vous à la gare maritime pour proposer le meilleur des produits des îles. Un char de bénitier, vinaigre de miel ou encore igname sucré, tous ces produits sont à découvrir jusqu'à 16h. 16h10, allez, première pub dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité. À tout de suite.
L'Amérique fracturée. L'Université de la Nouvelle-Calédonie vous invite à une conférence publique exceptionnelle pour décrypter l'élection présidentielle américaine le mercredi 6 novembre à 18h en Amphi 400 du campus de Nouville. Passionné de politique et des enjeux internationaux ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'élection présidentielle américaine, venez échanger. Rendez-vous à l'Université de la Nouvelle-Calédonie le mercredi 6 novembre à 18h en Amphi 400. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Plus d'infos sur unc.nc.
La vie est faite d'imprévus, de changements, d'incertitudes.
Bienvenue !
Mais un accompagnement personnalisé offre de nouvelles perspectives. Les défis se transforment en opportunités. Demain se réinvente et vous appartient. Crédit à la consommation, financement professionnel, BCI. Le coup de pouce dont vous avez besoin. Offre commerciale disponible. Parlez-en à votre conseiller BCI.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Excellent début d'après-midi et la suite de votre journal avec l'actualité en métropole et dans le monde avec vous, Léana Colombo.
Oui, et en métropole, près d'un an après le drame de Crépol, le club de rugby de Romans-Péage est une nouvelle fois endeuillé après la mort de Thomas, 16 ans, poignardé lors du bal d'un village. Un de ses camarades, Nicolas, est mort lors d'une fusillade à la sortie d'une boîte de nuit. Les faits se sont déroulés jeudi soir en Ardèche. Antoine Bienvaux revient sur les détails de l'affaire pour Europe 1.
Eh bien, il est environ 2h30 vendredi matin devant la boîte de nuit Le Seven lorsqu'un individu vêtu de noir et cagoulé ouvre le feu sur le parking de l'établissement. Plusieurs salves de balles sont tirées. Trois personnes sont touchées, dont Nicolas, 22 ans, atteint mortellement à la tête. Le tireur prend ensuite la fuite pendant que les 800 fêtards venus célébrer Halloween sont confinés à l'intérieur de la boîte de nuit. Des douilles de calibre 9 mm sont retrouvées sur place. L'enquête, elle, est en cours pour déterminer les causes de cette fusillade, des tirs qui auront donc coûté la vie à Nicolas, 22 ans, décédé cet après-midi après plusieurs heures en soins intensifs.
Le club de rugby où jouaient les deux jeunes hommes annonce être en contact avec la famille de Nicolas pour décider d'un éventuel hommage dans les prochains jours. L'actualité en métropole toujours, les suites de la fusillade qui s'est déroulée à Poitiers vendredi dernier. L'adolescent de 15 ans qui avait été grièvement blessé à la tête est décédé cette nuit pour nous. La police est toujours sur les traces d'un homme qui pourrait être impliqué dans cette fusillade. Âgé d'une vingtaine d'années et originaire du sud-est de la métropole, il serait déjà connu de la justice et mis en examen dans le cadre d'une affaire de détention d'armes en 2022. Il aurait ensuite été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. C'est donc bien le trafic de drogue qui apparaît comme fil conducteur. Poitiers, une ville qui a dû intensifier la lutte contre le narcotrafic ces dernières années, reconnaît le préfet de la Vienne, Jean-Marie Gérier.
On constate plusieurs éléments ces dernières années. D'abord, des nouveaux produits qui arrivent, beaucoup plus de cocaïne ici, beaucoup plus d'héroïne qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Et puis des volumes beaucoup plus importants. Entre 2021 et 2023, la police nationale a multiplié par 7 le nombre de saisies à Poitiers.
Poitiers qui reste sous une surveillance renforcée avec des effectifs supplémentaires de CRS déployés depuis vendredi. Et c'est un acte volontaire qui a suscité une vive émotion dans la communauté musulmane en Côte d'Or, en métropole. Hier, un marcassin mort a été retrouvé devant les locaux d'une association franco-turque où se trouve une mosquée à Saint-Usage, un village de 1300 habitants. Les gendarmes ont été appelés sur place et une enquête a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a évoqué l'affaire sur le réseau social X, dénonçant un acte anti-musulman intolérable deux jours après la tentative d'incendie de la mosquée d'Amiens. L'actualité internationale avec les élections présidentielles américaines. Et Charlotte Coulson, nous sommes désormais à deux jours du dénouement.
Une bataille à couteau tiré. Donald Trump continue de tacler à distance sa rivale Kamala Harris, l'accusant par exemple de détester les Américains lors d'un meeting donné dans le Wisconsin. Kamala Harris, elle, tente de convaincre qu'elle est l'antidote à l'ancien président républicain. Dans son dernier clip de campagne, elle promet d'être une présidente pour tous les Américains. Pour le moment, rien n'est joué dans les urnes, d'après un sondage publié hier. Kamala Harris devancerait Donald Trump dans l'Iowa, un État pourtant notoirement considéré comme acquis aux républicains.
Et en Espagne, le gouvernement annonce l'envoi de renforts pour retrouver les disparus et déblayer les rues. Quatre jours après des intempéries meurtrières qui a fait pour le moment 213 morts, 10 000 policiers et militaires sont mobilisés pour faire face à l'urgence dans la région de Valence. À Sedaví, dans la banlieue sud de Valence, de nombreux Espagnols sont encore en difficulté. Alexis Bourdon pour Europe 1.
Oui, ici on manque de tout ou presque. Je me trouve près d'une artère principale de la ville de Sédavie et de nombreux stands ont fleuri un peu partout pour donner de l'eau et de la nourriture. Juste derrière moi, les locaux d'une école ont été réquisitionnés. Toute la journée, des milliers de personnes ont fait la queue dans l'espoir d'obtenir de quoi survivre. Carla est infirmière, c'est elle qui gère le stock de médicaments et elle s'inquiète de voir cette file d'attente qui ne désemplit pas.
C'est catastrophique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Alors évidemment, on ne pouvait pas faire grand chose de plus, mais tout est détruit. Il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'hôpitaux à proximité. Nous ne pouvons pas sortir car tout est rempli de voitures. Mais les gens ont besoin de nourriture, de médicaments, de soins. C'est catastrophique.
Pour le moment, l'heure est toujours au nettoyage. Toute la journée, les habitants de Sédavie, aidés par des bénévoles venus des quatre coins de l'Espagne, ont balayé les rues et vidé les maisons encore sous les eaux. De nombreuses rues sont d'ailleurs toujours bloquées par de nombreux véhicules qui s'entassent les uns sur les autres.
L'Est de l'Espagne qui redoute de nouvelles inondations en fin de semaine prochaine. Selon un site spécialisé, la région pourrait de nouveau être frappée par de violentes intempéries.
À Radio Rythme Bleu, il est 12h16.
Dans le Pacifique, les forces armées d'Australie et d'Indonésie viennent de débuter leur plus importante manœuvre de ces dernières années avec l'exercice Kiris Woomera. Et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Plus de 2000 personnels des trois armes des deux pays vont participer à cet exercice, lequel vient de débuter en Indonésie et va comprendre des opérations aériennes, maritimes, amphibies et terrestres. Il va également inclure un scénario d'assistance humanitaire et d'évacuation en cas de catastrophe. 35 soldats indonésiens seront par ailleurs déployés à bord du navire d'assaut amphibie Adélaïde afin d'effectuer une formation d'intégration avec les forces armées australiennes. Ces manœuvres Kiris Woomera se termineront par un exercice combiné de tirs réels qui vont impliquer des chars, de l'artillerie, de l'infanterie et des hélicoptères d'attaque. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Retour à l'actualité sur le territoire et un rendez-vous pour les fans de jeux de rôle ce week-end. Le Sci-Fi Club fête les 50 ans du célèbre jeu Donjons et Dragons. Et à cette occasion, une mini-convention de jeux de rôle a débuté hier à la Maison de la Parole à Nouméa, Charlotte Coulson.
Les magiciens et les dragons n'existent pas et pourtant ils prennent vie dans l'imaginaire des joueurs. Vieux de 50 ans, le jeu Donjons et Dragons connaît un regain d'intérêt depuis la sortie en 2016 de la série Stranger Things, dont le scénario est basé sur ce jeu médiéval. Au Sci-Fi Club, ils n'ont pas attendu 2016 pour s'y intéresser. Ils avaient décidé cette année de marquer les 50 ans de son existence en y consacrant plusieurs événements. Malheureusement, après le 13 mai, les membres du club ont dû revoir leur plan. Ils ont donc mis en place cette mini-convention organisée par Sébastien Guibos, membre du Sci-Fi Club.
Alors en fait, cette année, il devait y avoir tous les événements du Sci-Fi Club qui devaient être teintés 50 ans de Donjons et Dragons. Mais les événements du Sci-Fi Club, ils ont été presque tous annulés. Donc il n'y a pas de Weekend Geek, il n'y a pas eu de Weekend Medieval Fantastique. Et donc à la place du Weekend Geek, on a décidé de faire juste une petite convention, comme ce qui était l'événement original il y a 15 ans de ça. Voilà, on est revenu un peu aux origines. Il a juste fallu trouver un lieu. Et bon, ben, grâce au service culturel de la mairie, on a eu la Maison de la Parole. Et c'est vraiment sympa. Parce que bon, on savait qu'on ne serait pas nombreux. Hein. Cette année, les choses sont un peu bouleversées. Mais voilà, on a quand même pu se réunir et c'est ça qui compte.
Un événement qui est ouvert aux initiés, mais aussi aux débutants. Ils sont toutefois peu nombreux à découvrir le jeu, car le concept peut parfois sembler complexe aux premiers abords. Alexandre Treuil, membre du Sci-Fi Club, a pris le temps de nous expliquer les règles du jeu Donjons et Dragons.
Donc le jeu de rôle, hein, c'est une table sur laquelle il y a un maître du jeu et avec des joueurs. Le maître du jeu va raconter une histoire, il va proposer des situations, il va faire des descriptions. Et les joueurs autour de la table, avec leur imagination aussi, vont proposer des solutions en fonction des capacités de leurs personnages. Il y a des personnages qui ont des compétences et des connaissances différentes. Donc nous sommes dans un monde de fantasy, dans Donjons et Dragons. Ça veut dire qu'il peut y avoir des magiciens, des guerriers, également des personnages avec des compétences de crochetage ou qui sont des pièges. Et même des personnages qui sont là pour aider magiquement les personnages autour d'eux. Donc on est vraiment entre le jeu de société, théâtre d'improvisation et le conte.
Et à la Maison de la Parole ce matin, une vingtaine de personnes réparties autour de trois tables, attentives aux indications de leur maître de jeu. Certains ont revêtu leur plus beau costume médiéval, d'autres sont venus tels qu'ils sont. Au final, toutes et tous se sont pris au jeu.
Alors, Donjons et Dragons, je connais, mais j'ai joué quand j'étais très très jeune. Au début, j'avais pas beaucoup apprécié, parce que c'était un jeu qui était quand même un petit peu compliqué au niveau des règles. Et cette séance était formidable, parce que j'ai découvert une nouvelle version qui me correspond mieux.
Alors, il y a longtemps, je faisais beaucoup des parties, donc ça fait au moins 5-6 ans que je me suis mis à faire du jeu en tant que joueur. Et là, maintenant, je commence à masteriser, donc je vais profiter pour faire une partie pour me remettre dedans. J'avais un peu d'appréhension au début, mais après, au fur et à mesure que je vois les autres, après, je me suis un peu inspiré.
Alors, j'ai déjà fait du jeu de rôle, mais jamais joué Donjons et Dragons. C'est trop bien. On rigole bien depuis tout à l'heure.
La mini-convention de jeux de rôle continue ce dimanche jusqu'à 17h à la Maison de la Parole à Nouméa pour un tarif de 600 francs la journée. Et puis l'univers des jeux de rôle ne se limite pas à Donjons et Dragons. Cet après-midi, les curieux auront l'occasion de s'essayer à d'autres activités.
Merci Charlotte Coulson. Midi 21, allez, dernière pause dans ce journal avant de voir tout le sport. Urgence, pouvoir d'achat.
Chérie, tu savais que l'Hyper Upa Ita était enfin ouvert ?
Et qu'on pouvait gagner plus d'un million de francs de cadeaux ? Bien sûr ! Venez découvrir votre nouveau Hyper Upa Ita et jusqu'au 10 novembre, tentez de gagner plus d'un million de francs de cadeaux. Pour participer, rendez-vous en magasin pour remplir le bulletin de jeu sur l'une des bornes de jeu ou en scannant le QR code. Hyper U, sortie Paita Centre. Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook Hyper Upa Ita NC. Jeu sans obligation d'achat, voire conditions en magasin, tirage sur le 12 novembre. Hyper U, la qualité notre métier, le prix notre priorité.
U, commerçant autrement.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et la suite de votre journal avec le sport. Et avant de retrouver Lana Colombo, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une du sport, du tennis, avec une finale en vue pour Hugo Humbert à Paris, Michael Juneski.
Et oui, son aventure au célèbre Masters 1000 dans la capitale continue. Le Français a dominé en demi-finale le Russe Karen Khachanov, 6-7, 6-4, 6-3. Il disputera donc la finale du grand rendez-vous indoor à Paris-Bercy. Il retrouvera l'Allemand Alexander Zverev pour le titre. On écoute Hugo Humbert.
Ouais, je me suis dit franchement, même si t'es pas parfait aujourd'hui, je m'en fous, bats-toi quoi. Tu te bats jusqu'à la fin, tous les points tu te donnes à fond, puis on verra bien ce que ça donne. Et puis il y a tout le public qui est là derrière moi, j'ai aussi envie de partager avec eux, de leur offrir la victoire. Et voilà, je suis trop content d'avoir une chance encore demain de revenir sur ce court.
Hugo Humbert qui avait battu en quart de finale l'Espagnol Carlos Alcaraz, il est le premier Français à atteindre ce stade du tournoi parisien en indoor depuis Wilfried Tsonga en 2011.
Le football avec la 10e journée de Ligue 1.
Et cette victoire sur le score minimum du PSG face à Lens, 1-0. Les Parisiens qui prennent tout de même de l'avance en tête du championnat de France, grâce donc à ce nouveau succès sur un unique but de Dembélé et face à des Lensois réduits à 10 contre 11. De son côté, Nice a battu Brest 1-0. Enfin, l'AS Saint-Etienne l'a emporté sur Strasbourg 2-0. Une bouffée d'oxygène pour les Verts qui remontent à la 15e place. Demain, il restera 4 matchs à suivre, dont un choc entre le FC Nantes d'Antoine Comboiré et l'Olympique de Marseille.
Un coup d'œil aux principaux résultats dans les autres championnats européens.
On va commencer par l'Italie et la Juventus de Turin qui l'emporte sur Udinese 2-0. Victoire encore du Milan AC face à Monza 1-0. Ce soir, le leader napolitain recevra l'Atalanta Bergame. En Angleterre, Arsenal ne tient plus la cadence et a été battu par Newcastle 1-0. Manchester City l'a emporté face à Bournemouth 2-1. Liverpool s'est imposé sur Brighton 2-1. Encore une belle affiche à venir demain entre Manchester United et Chelsea, ainsi qu'un duel entre Tottenham et Aston Villa. En Allemagne, le Bayern Munich est en forme avec une nouvelle victoire sur l'Union Berlin 3-0 Et puis dans un choc pour le podium, le Borussia Dortmund l'a emporté sur Leipzig 2-1. Enfin en Espagne, notez que le match du Real Madrid à Valence a été reporté en raison bien évidemment de la catastrophe qui a touché le sud-est du pays. Le derby de Barcelone entre l'Espagnol Barcelone et le Barça se disputera la nuit prochaine.
L'actualité du rugby avec la 9e journée de Top 14.
Et les victoires de Clermont sur l'Union Bordeaux-Bègles 32-27. Castres l'a emporté face à Montpellier 30-26. Le RC Toulon s'est imposé sur le Loup Lyonnais 21-10. Le Racing 92 l'a également emporté face à la section paloise 33-23. Et puis on soulignera que Perpignan s'est imposé sur Vannes, le promu breton 32-13. Enfin, ce dimanche matin, le Stade Rochelais a battu le Stade Français 35-18. Fin des hostilités demain matin avec une dernière confrontation entre Bayonne et Toulouse. Match à suivre à partir de 7h05 pour nous. Et puis, à l'international, cette victoire sur le fil de la Nouvelle-Zélande face à l'Angleterre. Les All Blacks ont dominé le 15 de la Rose pour ce test match d'automne 24-22. De son côté, l'Écosse s'est très largement imposée à Murrayfield face à des Fidjiens privés de leur star. Succès du 15 du Chardon, 57-17.
Et en MotoGP, Jorge Martin a remporté hier soir la sprint race du Grand Prix de Malaisie.
Ouais, succès du pilote espagnol sur l'épreuve sprint, tandis que son principal rival au championnat du monde, Francesco Bagnaia, a chuté durant l'épreuve. Jorge Martin peut être sacré champion du monde dès ce soir. Côté français, Fabio Quartararo a réussi à se classer 5e au guidon de sa Yamaha, tandis que Juan Zarco a dû abandonner la course. Le Grand Prix de Malaisie, ce sera ce soir dès 18h, heure de Nouméa.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Michael, la Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil.
Et la victoire sur la sprint race est revenue au Britannique Lando Norris. Par ailleurs, en raison d'une pénalité, Max Verstappen a chuté du podium alors qu'il avait terminé à la 3e position. Le pilote McLaren, Lando Norris, fait donc une très belle opération en se rapprochant un peu plus du leader Red Bull du championnat du monde. Norris qui l'emporte devant son coéquipier McLaren Oscar Piastri. Charles Leclerc termine 3e sur Ferrari. Côté français, Pierre Gasly a réussi à conserver jusqu'au bout sa 7e place sur Alpine Renault, on l'écoute.
Ça a été une bonne course, ça a été très difficile, mais je suis très content, on part 7e, on arrive à finir 7e, on arrive à garder Perez derrière jusqu'au bout, c'était serré, on arrive à être les meilleurs dans le midfield, donc non, c'est vraiment, vraiment bien. Après c'était difficile en termes de pneus, il y a des choses à améliorer pour demain, il y a encore quelque chose à améliorer pour demain.
L'autre français, Esteban Ocon, a quant à lui fini à la 13e place. Le Grand Prix du Brésil reste programmé demain matin, départ à 4h, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport en Calédonie, on parle voile avec une nouvelle compétition organisée par le CNC.
La Coupe Exocet, un format inédit puisque les participants s'affrontent sur des parcours côtiers à bord de J70, une épreuve qui plaît depuis son lancement. Lucas Maligne, responsable de la base nautique du CNC, est directeur de course.
L'intérêt de cette compétition, c'est que contrairement à d'habitude sur le support J70, là on va faire des manches de longue durée, des parcours type côtier qu'on ferait plutôt en croiseur habitable d'habitude, donc des parcours de 16, 18, 20 000 nautiques, donc de 30, 35, 40 km dans le lagon sud, alors que d'habitude sur des J70 on est plutôt sur des petits parcours devant la baie des Citrons de 20, 30 minutes maximum. C'est aussi surtout pour nous une façon de faire découvrir les gens qui naviguent en croiseur, donc sur des bateaux différents, la course en monotypie, donc tout le monde sur le même bateau. Et effectivement, on remarque que même sur des parcours de 2h30, 3h de course, ils arrivent avec 10, 15, 20 secondes d'écart. Donc ça leur fait plaisir, ça fait plaisir à l'organisation et c'est vraiment un beau week-end là, qui se passe.
Lucas Malige, responsable de la base nautique du CNC et directeur de course. Les régates ont emmené les équipages au large de l'île aux Maîtres, de l'île de Crouy, de l'île aux Charons, du récif Caneacae. Et aujourd'hui, cap sur le phare Amédée. Écoutez Maxime de l'équipage Optimax, il était en tête de l'épreuve hier soir.
L'idée d'habitude sur les J70, c'est de la monotypie, donc c'est tous les mêmes bateaux. D'habitude, on tourne entre trois bouées sur des parcours bananes. L'idée de cette année, c'était de faire un parcours un peu côtier pour élargir le plan d'eau et se faire plaisir aussi sur des longs bords. On a fait 2 heures sous-spi, c'était un pur régal. Ça a permis aussi de voir les compétences de chacun sur l'eau.
7 bateaux sont inscrits pour ces 3 jours de régate, soit 34 participants embarqués donc jusqu'à ce soir dans cette première compétition du genre.
Et on voit ce qui fait le reste de l'actualité sportive avec du football, Mickaël.
Et une nouvelle victoire de la sélection en match de préparation aux éliminatoires du Mondial. Succès 6-0 face au Monde Or en rencontre amicale pour cette dernière sortie avant le départ vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La liste des sélectionnés sera annoncée ce lundi. Il y a du padel ce week-end au Tennis Club du Receiving. 19 équipes en lice dans une compétition P250 réservée aux féminines. Finale prévue cet après-midi. Également du golf avec la suite et la fin ce dimanche de l'Evian d'Imbéa Cup. Notez que chez les féminines hier soir, c'est Jacqueline Somme qui était en tête devant Thérèse Daval et Fabienne Maillard. Chez les messieurs, c'est Guillaume Castagne qui était leader du classement devant David Hay et Jules Guépy. Tournoi qui donc se termine aujourd'hui. Et puis hors du territoire, Maxime Grousset survole une nouvelle fois les championnats de France de natation en petit bassin. Déjà attitré à 3 reprises sur 100 mètres papillon, 100 mètres 4 nages et 50 mètres nage libre. Il a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès avec un sacre sur le 50 mètres papillon. Enfin, en cyclisme sur piste, les championnats de France à venir continuent en Bretagne avec des Calédoniens engagés. Hervé Salin a déjà décroché 2 médailles de bronze sur le kilomètre junior et en vitesse. Louise Chavitz a également remporté une médaille de bronze en vitesse et a échoué de très peu pour la deuxième médaille de bronze sur le 500 mètres départ arrêté. Elle s'était inclinée pour la troisième place à seulement 20 millièmes de seconde.